Europe Soir, le 18-20, Julien Buch.
Le débat des grandes voix du lundi avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et Bruno Cotterêche, chercheur CNRS au CEVIPOF. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Julien.
Alors on commence par évoquer ensemble, si vous le voulez bien, les suites politiques. Après le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, Jean Castex reçoit tout à l'heure les syndicats de police. Le Premier ministre a déjà annoncé le déblocage de 10 millions d'euros pour sécuriser les commissariats. Et une marche citoyenne aura lieu d'ailleurs le 19 mai à l'appel des policiers. On écoute pour commencer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
C'est un message donné à tous ceux qui veulent s'en prendre aux policiers, aux gendarmes. On ne vous laissera jamais tranquille. Et en 4 jours, on a démontré qu'on ne laissera jamais tranquille les trafiquants.
Est-ce que la colère des policiers, Emmanuel Ducrot, peut se transformer en piège politique pour le gouvernement ?
C'en est déjà un piège politique.
Oui.
Je ne vais pas déflorer ce que va dire mon voisin tout à l'heure, mais le CEVIPOF est allé chercher dans ses sondages et montre que les intentions de vote pour le Front National des policiers et des militaires atteignent 60%. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais oui, c'est un piège parce qu'on a... un potentiel d'image absolument dévastateur si les policiers mettent leur casque à terre, si j'ose dire. C'est une corporation qui, depuis quand même déjà très longtemps, fait part de sa frustration de voir son travail saboté quand elle retrouve les délinquants dehors. Il y a un manque de moyens qui est criant. Il est temps de s'en préoccuper parce que les élections approchent. C'est une corporation qui se fait taper dessus par l'extrême gauche, qui est attendue à bras ouverts par l'extrême droite. Et qui, si elle lâche le pouvoir, c'est une déflagration possible. Donc oui, c'est un piège politique.
Alors, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous révèle ?
Alors, on a collecté une série de données au CEVIPOF grâce à de grosses enquêtes qui permettent d'aller zoomer sur des sous-populations. Parce que souvent, sur les sondages classiques, on n'a pas assez d'individus pour aller détailler certaines professions. Et nous, on a beaucoup zoomé, en particulier les policiers. Les militaires aussi. Et on voit qu'effectivement, qu'on prenne ceux d'actifs ou ceux qui sont retraités, il y a quelques différences entre les deux. Mais globalement, c'est une population cible assez captive pour, on va dire, des formations politiques qui veulent incarner l'ordre, la sécurité, la dimension
on
verticale.
On savait qu'il y avait une forme de porosité chez les militaires aux idées du Rassemblement National. C'est le cas aussi pour les policiers.
Oui, bien sûr, c'est le cas
dans
aussi.
Dans quelle proportion ?
C'est le cas. Alors, c'est une, selon nos études... au cours de l'élection présidentielle de 2017, on était quelque part entre 40 et 50% d'intention de vote pour la candidate du Rassemblement National.
Un policier sur deux
pratiquement,
qui vote
pratiquement,
Marine Le Pen.
Voilà, pratiquement. Alors, il y avait des nuances en fonction de ceux qui étaient actifs ou ceux qui étaient retraités, mais donc une possibilité effectivement pour le Rassemblement National de s'appuyer sur certaines catégories de population. Il faut voir aussi qu'il y a un autre piège pour le gouvernement, c'est pas seulement le piège de s'aliéner une partie des électeurs, en particulier les policiers. Il y a un autre piège, il y a une problématique qui est importante, qui est celle du rapport entre la police et la population. C'est quelque chose qui concerne beaucoup la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, y consacre beaucoup d'attention. La police avait été portée à un sommet de popularité après les attentats de 2015, et après la crise des Gilets jaunes, il y a eu quelques moindre popularité. Et aujourd'hui, on est, d'après nos études à nous, on est autour de 69-70% de popularité pour la police. Mais dans certaines sous-catégories de la population, je pense en particulier aux jeunes qui vivent en Île-de-France notamment, il y a un vrai enjeu pour la police de retisser le lien.
Alors ça, c'est pour la photographie générale. Et merci de nous révéler ces sondages et les études du CEVIPOF. Que peut faire maintenant Charles Villeneuve, concrètement, le gouvernement, parce qu'il y a une réunion importante tout à l'heure autour de Jean Castex avec les syndicats de policiers qui va les recevoir à Matignon. Alors, le Premier ministre a déjà annoncé, je le disais, 10 millions d'euros qui seront débloqués pour la sécurisation des commissariats. Il y aura aussi la généralisation des caméras piétons, le renforcement pénal grâce à la fameuse loi sécurité globale. Que peut faire de plus le gouvernement ?
En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont donc déboursé 10 millions d'euros pour... Ça, c'est la solution classique. Dès qu'il y a un malaise avec les syndicats, en réunion, on donne de l'argent. Ou alors, solution alternative, on décide de renforcer l'arsenal répressif.
Oui.
Notamment pénal. Donc, c'est encore une autre affaire. Là, le garde des Sceaux, bien qu'il ait pas mal de distractions, va certainement être saisi de ce type d'opération.
Il sera là, d'ailleurs, tout à l'heure, à la réunion.
Pour moi, ça ne sert à rien.
Oui.
Strictement à rien, parce qu'aujourd'hui, le problème... Et le piège politique a changé de nature.
Oui.
Parce que le chasseur, le policier, devient chassé. C'est tout à fait différent. La situation est très irruptive dans les rangs de la police. Et il faudra faire très attention à la manière dont ce gouvernement, qui jusqu'à présent n'a jamais projeté une image de je dirais, d'autorité, notamment sur le plan régalien, devra trouver d'autres solutions, d'autres mots pour justement les rassurer. Alors, comment faire ?
Alors,
D'autant plus qu'il faut quand même observer que, pour moi, le ministre de l'Intérieur a pris une décision, notamment de stratégique, de donner un coup de pied dans la fourmilière de la mécanique de drogue qui va bien au-delà, vous voulez, de l'interception simplement du deal. Tout le monde s'appesantit sur les points de deal. Ça va beaucoup plus loin, notamment sur les réseaux d'alimentation et les réseaux de remontée non seulement de la coke, du kiff, de l'hache, qui, si vous voulez, viennent de régions dont toute l'économie est sous-tendue par le trafic.
Alors, c'est un élément d'explication, mais c'est peut-être un peu court que dire que la violence contre les policiers est exacerbée parce que le gouvernement fait bien son job. On verra si...
Non, ce n'est pas ce que je veux dire.
Ah, si, vous avez dit...
Non, pas du tout.
Je dis que
en déclenchant cette stratégie, il est bien évident qu'il a titillé, qu'il a agacé les producteurs de drogue et qui trouve des petites mains pour aller monter, évidemment, sur les cibles policières. Oui. Et il est normal que les policiers, à ce moment-là, se retrouvent dans une position différente de celle qui est la leur, dans un pays sécurisé.
Alors, je voudrais qu'on parle dans un instant, on marque une première pause, des conditions de travail, et puis de la réponse politique. Il y a les intentions, mais il y a la réalité aussi de ce que peut annoncer le gouvernement. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite des Grandes Voix du lundi, avec toujours Charles Villeneuve, Bruno Cotrès, du CEVIPOF, et Emmanuel Ducrot, journaliste éditorialiste à l'Opinion. Alors, on parlait à l'instant de la réponse que peut apporter le gouvernement face à ce malaise policier qui monte. Et puis, il y aura cette mobilisation très importante, citoyenne aussi, le 19 mai, jour d'ailleurs de déconfinement de la France avec les réouvertures des lieux publics. On évoquait les moyens. C'est vrai que ça peut paraître pas grand-chose, 10 millions d'euros pour renforcer la sécurité dans les commissariats. Mais il y a quand même un élément, puisqu'on parle de considération aussi de la part des politiques et de l'exécutif vis-à-vis des policiers, de considération aussi de la part de l'opinion publique, la revalorisation des salaires. Est-ce que nos policiers sont suffisamment payés ? Ils gagnent 1500, 1600, peut-être en fin de carrière 2000 euros pour nous protéger au quotidien. C'est un peu comme les soignants. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de reconsidération qui peut passer aussi par la rémunération ?
Mais clairement, pour ces métiers-là, question de revalorisation, de reconsidération, effectivement. Les policiers, c'est un corps de fonctionnaires qui s'est engagé pour arrêter des méchants, pour rendre service à la société, qui vit cet engagement comme une mission absolument sacrée au service de la société et qui trouvent qu'ils n'en sont pas payés de retour très souvent, soit des fois par l'opinion publique, soit effectivement en termes de rémunération. Il y avait eu un sujet il y a plusieurs années qui sans doute n'est pas complètement terminé, qui était celui du paiement d'heures supplémentaires.
Oui.
Alors on a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, mais il y a clairement un double enjeu. Il y a l'enjeu effectivement, sans aucun doute, des carrières des policiers. Et puis, il y a aussi cet enjeu qui est l'enjeu de considération et de prise en compte de la difficulté de ces métiers. Ce sont des métiers très exposés, très difficiles. Beaucoup de policiers ont été les victimes de crimes abominables depuis quelques années.
Absolument.
Et le moral, globalement, des forces de police, on le sait, n'est pas très bon.
Non, mais je pose la question parce qu'aujourd'hui, les politiques s'émeuvent de la façon dont, à juste titre d'ailleurs, dont les policiers sont pris pour cible, cette barrière qui n'existe plus face à certains délinquants, à certains jeunes, à certains dealers. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tous une part de responsabilité avec du matériel qui est parfois défaillant, des voitures de police qui ne fonctionnent pas ou très peu, des commissariats qui sont dans un état déplorable, des salaires qui ne sont pas suffisants, une formation qui est insuffisante? Est-ce que les politiques n'ont pas aussi une part de responsabilité tout de même?
Je pense qu'il y a vraiment... C'est multifactoriel, ce malaise de la police. Il y a effectivement la question des rémunérations, il y a la question du respect de leur travail, c'est-à-dire la question de toute la chaîne pénale. Il y a l'enquête et puis il y a les suites pénales. Et ça, clairement, ça dysfonctionne parce que la justice non plus n'a pas assez de moyens, parce que les prisons sont pleines. Voilà. Et puis, il y a aussi la défense de l'image. Là, on est dans le symbole. Les policiers, il y a eu un moment, ça n'allait déjà pas très bien, et il y a eu une rupture au moment des gilets jaunes. On les a envoyés.
De la loi travail avant ça.
De la loi travail.
La violence avec ce policier qui avait été presque brûlé vif, en tout cas sérieusement blessé.
Ils ont eu l'impression d'avoir été mal défendus par l'État. Et quand votre vitrine sécuritaire va mal, ça montre aussi la faiblesse de l'État et le fait que l'État perd les rênes. Et ils ont le sentiment d'avoir été en quelque sorte lancer comme de la chair à canon face à des gens qui finalement leur ressemblent, parce que les gens qui étaient face à eux, les gilets jaunes, c'était des gens du même milieu socio-culturel, si vous voulez. Et ça a vraiment marqué une rupture, c'est-à-dire ce sont des gens qui, jusque-là, et jusqu'à une époque récente, avaient quand même une légitimité dans la population et qui ont le sentiment d'en avoir perdu une part et de ne pas avoir été défendus par ceux qui les envoyaient au casse-pipe.
Alors c'est vrai que la réponse pénale est au cœur de ce débat, justice laxiste ou pas, c'est un débat qui monte aujourd'hui en France. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé. Il nous faut continuer, dit-il, d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution. Le président d'ailleurs qui concède qu'il y a, oui, une violence plus importante aujourd'hui dans la société. Mais alors, quand on regarde ce que prévoit le code pénal, les textes sont là, s'ils étaient correctement appliqués. Un individu qui agresse un policier ou un gendarme, c'est de 3 ans de prison, parce qu'il y a une circonstance atténuante, de 3 ans de prison à la perpétuité, pardon. À la perpétuité.
Oui, mais là,
vous... Charles Villeneuve.
Oui, mais si vous voulez, moi
on
j'ajouterais...
On n'arrive pas à appliquer les textes qui sont là.
Mais non, parce que d'abord, il n'y a pas assez de place. Ensuite, de toute façon, il y a une gestion des gens, des individus qui sont condamnés assez, si vous voulez, discontinue, en quelque sorte. Parce que aussi bien les JAP que les JLD, les juges d'instruction, etc., sont complètement dépassés. Il manque de tout, des greffiers. C'est une réalité. Et c'est la raison
c'est
pour laquelle...
C'est pour ça que les policiers disent on met quelqu'un en garde à vue, puis il ressort le lendemain alors qu'il devrait être condamné.
Et alors, ce que ressentent, pour ajouter à ce que vous venez de dire, quand vous discutez avec de jeunes policiers, ça a été mon cas durant les manifestations du 1er mai. Bon, j'ai été parler avec un certain nombre d'entre eux. D'abord, ils sont exaspérés par l'attitude des politiques qui, chaque fois, font semblant de découvrir tout d'un coup leurs problèmes.
Oui.
Ça les exaspère de manière extraordinaire. Et puis, eux-mêmes vous disent il y a un vrai problème sur le plan de l'autorité et d'irrespect par rapport à nos fonctions d'autorité.
Oui.
Ce qui est vrai pour nous, aussi bien des professeurs, aussi bien des parents, aussi bien... Donc c'est un vaste sujet, beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit.
Oui.
Il ne suffit pas de 10 millions d'euros pour protéger simplement le commissariat, même si, évidemment, il s'agit de ne pas les refuser. Mais ça va bien au-delà. C'est dans les profondeurs de la société dans laquelle nous vivons que se situe le problème.
Alors, parmi les pistes qui sont sur la table, parce qu'il va quand même falloir que le gouvernement apporte des solutions, Bruno Cotterêts, il y a sur la réponse pénale, la fin de l'automaticité des remises de peine pour ceux qui s'en prennent à des policiers ou des gendarmes, l'instauration de peines minimales, ce sont les fameuses peines planchers, et puis les peines incompressibles, les mandats de dépôt à l'audience et le travail notamment sur les mineurs. Ça peut fonctionner parce que ça ne va pas se résoudre d'un coup de baguette magique, ça.
Ah non. Clairement, ce sont des politiques publiques qui se mettent en œuvre sur un moyen terme, on ne va pas dire un long terme, mais en tout cas sur un moyen terme, et qui demandent un arsenal non seulement de mesures, mais aussi de moyens. Parce que si on applique davantage les peines, si les peines sont conduites davantage en prison, il y a les problèmes de la place dans les prisons, bien évidemment.
Oui.
Il y a aussi le problème de l'accompagnement de ceux qui sont en détention. Donc il y a effectivement une panoplie de politiques publiques qui doivent se réorganiser autour de cette problématique de la sécurité, notamment de moins exposer les forces de l'ordre, ou davantage, en tout cas, exécuter les peines.
Bien.
Donc c'est vrai que les moyens sont des moyens qui, sans aucun doute, sont sur des moyens pluriannuels, qui n'ont pas seulement comme horizon les mois qui arrivent, mais c'est effectivement... quelque chose qui va au-delà, sans aucun doute, des échanges de 2022.
Alors j'ai dit, pardon tout à l'heure, circonstances atténuantes, je voulais dire évidemment circonstances aggravantes, ma langue est fourchée. On marque une seconde pause, 18h47, on se retrouve dans quelques secondes, et on pense évidemment à tous ces policiers et gendarmes qui font un boulot absolument formidable. À tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.